objet de méditation extraordinaire qui s'appelle le Mongshe, les pierres de rêve.
Vous pouvez aussi refouler ça, ça c'est un autre problème. D'ailleurs,
c'est l'essence des raccourcis.
Des blocs polis, donc des pierres, des marbres polis.
8 heures passées de 5 minutes sur Aligre FM 93.1. C'est Voix contre oreille, vous êtes avec Clément et Michel, comme tous les mercredis, entre 8h et 9h. Alors, très bon réveil à tous, salut Clément.
Salut à tous.
Alors aujourd'hui, on parle démocratie,
ouais.
On parle déficit de démocratie.
Et on parle RIC avec, suite à ces mouvements de gilets jaunes qui font de plus en plus appel.
Voilà, le référendum d'initiative citoyenne, la démocratie directe, la démocratie participative, la 6ème République, la constituante. Beaucoup de voix s'élèvent pour demander plus de démocratie, pour demander une refondation de notre démocratie, du jeu politique. Pour parler de ces sujets, nous sommes ce matin avec André Bellon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes président de l'association Pour une constituante.
C'est vrai.
Voilà, notamment. Et nous sommes également avec Jean-François Lallier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS et enseignant à l'École d'économie de Paris.
Ça m'arrive.
Voilà, et co-auteur du rapport qui est sorti en février 2019, le référendum d'initiative citoyenne délibératif. C'est un rapport que vous avez signé avec d'autres chercheurs pour l'Institut Terra Nova.
Exactement. Oui.
Voilà. Alors, au programme de cette émission, un peu le contexte des revendications, notamment remis au goût du jour avec les gilets jaunes, et puis plusieurs éléments de réponse pour changer la donne, le fameux RIC, on va détailler ça, l'évolution du processus de vote, et puis évidemment refonder les règles via une assemblée constituante. Voilà, c'est notre programme. On est ensemble jusqu'à 9h.
Aligre FM 93.1.
Alors Clément, on commence par peut-être le constat. Bon, on l'a largement fait et refait, notamment à ce micro, sur le manque de démocratie. Notre système politique, il a plus que de démocratie que le nom.
Ouais, alors on en parle effectivement régulièrement, notamment depuis le quinquennat Macron, donc depuis 2017. À l'occasion de nombreuses réformes qui mettent en cause cette démocratie. On a par exemple parlé de cette réforme institutionnelle il y a quelques mois de ça maintenant. Donc on a un sentiment relativement diffus dans la société que la démocratie n'est plus vraiment ce qu'elle devrait être, à savoir des représentants élus qui représentent effectivement les intérêts de la nation dans leur diversité. Qu'est-ce qu'on a au contraire? On a un sentiment relativement diffus, comme je le disais, qui serait que les représentants nationaux ne font pas correctement leur travail de représentation et que le système institutionnel français, il ne permet pas d'appuyer ces différentes revendications. Alors, on parle parfois du rôle du Parlement qui est dévoyé, donc un Parlement qui ne sert plus qu'à évaluer les décisions politiques prises par le gouvernement et qu'il a voté ex ante en appuyant sur les boutons telle une force unique suivant les demandes du gouvernement élu. Et donc, face à ce sentiment de manque de démocratie, on a ce mouvement des Gilets jaunes qui s'est élevé, donc notamment sur ce thème, et donc avec une demande qui revient de plus en plus et qui a été largement reprise au cours du débat national, à savoir le RIC, le référendum d'initiative citoyenne.
Voilà, alors le RIC, c'est comment ça marche, quels sont les risques, quels sont les pays qui le pratiquent déjà, et comment ça pourrait fonctionner, et notamment on va voir la proposition faite par Terra Nova, et puis donc André Bellon aura l'occasion de donner son avis, de la discuter.
C'est gentil.
Voilà, on est sympa. On... Ici, c'est la démocratie autour du micro. Alors, on commence par quoi ? Déjà, peut-être, Jean-François Lallier peut peut-être donner son point de vue sur... Déjà, nous expliquer dans le principe ce que c'est le RIC, de ce que les Gilets jaunes appellent le RIC, ce qu'ils demandent. Qu'est-ce que c'est, finalement ?
Oui. Ça serait une bonne organisation, mais juste avant, ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec le constat. T'as dit que le constat partait de ce qui s'est passé pendant le quinquennat Macron, et moi je pense que c'est pas vrai. Je pense que ça part de beaucoup plus loin, et que c'est les mêmes genres de problèmes qu'on trouve dans de très nombreux pays. Et donc cette montée de la violence physique ou verbale, la polarisation et l'appel général à plus de démocratie sont quelque chose qui vient de beaucoup plus loin que le quinquennat Macron.
Oui, là-dessus, je pense pas qu'on vous contredira là-dessus. Bon, Macron, après, il a poursuivi sur l'hyper-présidentialisation.
Vous permettez un mot là-dessus ?
Alors, André.
Ouais. Moi, comme je ne suis pas sûr qu'on aura beaucoup de points d'accord, là, on est d'accord.
Ouais.
Ça vient de beaucoup plus loin. Et il est difficile de dire uniquement, même si je trouve ce qu'on a vu pour l'instant du quinquennat Macron particulièrement mauvais, je pense qu'on peut difficilement dire qu'avant, en particulier quand on se rappelle 2005 et le fait qu'on a bafoué le vote des Français en faisant le traité de Lisbonne, c'était incontestablement un geste parfaitement antidémocratique.
Donc sur le référendum...
Quant au fonctionnement de l'Union européenne, moi j'adore l'invention du mot « déficit démocratique ». Hein, moi qui suis d'origine mathématique et économiste après, un déficit, il y a un actif, un passif. Bon, je vois bien le passif, je vois pas l'actif. Hein. Bon, voilà. Donc on est dans un système qui est de moins en moins démocratique, pour pas dire qu'il n'est plus du tout, non pas tout à fait.
Voilà, donc on passe sur le fonctionnement des médias qui sont détenus par les grandes entreprises. On passe sur la non-représentativité des élus, etc., etc. Donc, sur ce constat, Jean-François Lallier, donc, vous hochez de la tête, donc vous êtes d'accord sur le fait que donc il date de plusieurs décennies probablement. Alors, si on en vient à ce RIC, qu'est-ce que donc c'est un référendum. On en a des référendums dans notre constitution, mais référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche?
Donc là, le mot initiative citoyenne, ça veut dire que les propositions sont initiées par n'importe qui, hein, et donc ces choses existent dans pas mal de pays et sous des formes assez différentes, et notamment aussi bien pour des questions locales d'importance éventuellement faible, éventuellement grande, mais locale. Donc c'est typiquement l'image qu'on a de la démocratie dans les villages et les villes suisses, jusqu'à des choses d'importance nationale, jusqu'à quelques expériences de, par exemple, d'assemblées constituantes pour changer la constitution du pays, donc les choses les plus importantes. Donc en fait, il y a toute une galaxie de choses qui sont recouvertes par ce mot. Et dans le travail qu'on a fait, la première chose, c'était d'aller se renseigner justement sur un peu ce qui existait pour formuler une proposition forcément réductive, mais qui a le mérite d'être suffisamment articulée pour qu'on puisse en discuter. Et donc... Donc j'explique maintenant le contenu.
Oui,
de
alors
cette proposition.
Votre proposition, c'est un dispositif de référendum d'initiative citoyenne, mais que vous appelez délibératif. C'est une variante, je suppose. Alors vous pouvez nous expliquer effectivement en quoi ça consiste.
Voilà. Donc le trait le plus peut-être original, bien que ce soit pas original, de cette proposition, c'est la constitution d'une assemblée, ou on pourrait dire un jury, mais en fait qui comprendrait peut-être une centaine de personnes, qui est constituée à l'occasion de chaque référendum, donc qui n'est pas permanente, et dont la tâche est assez simple et bien définie. C'est simplement de recueillir les avis des gens qui veulent écouter, de réfléchir ensemble et de produire un document qui pourrait être par exemple une page ou quelques pages qui contiendrait premièrement l'énoncé de qu'est-ce qui, aux yeux de cette assemblée, est important dans la question soulevée. Quels sont les principaux arguments en faveur du oui? Quels sont les principaux arguments en faveur du non? Donc c'est quelque chose qui est bien, qui est assez précis, hein, et qui peut sembler un peu petit par rapport à tout ce qui est engagé derrière le RIC. Alors la proposition contient ce nœud un petit peu central, et puis tout ce qu'il y a autour. Ce qu'il y a autour est quelquefois assez peu discutable ou assez évident quand on y réfléchit, et quelquefois moins. Et notamment le deuxième point saillant de la proposition qu'on fait, c'est les seuils de signature et de validation du oui, qui sont définis en fait de deux manières. Il y a deux variantes, disons le petit RIC et le grand RIC. Les propositions qui viennent proposer une nouvelle loi, c'est ce qu'on appelle, disons, le petit RIC, et les propositions qui viennent annuler une loi précédente, qu'on appelle le grand RIC. C'est un peu ça la question. Et les seuils sont différents. Les seuils pour le nombre de signatures pour que la chose parvienne effectivement à un référendum, on a proposé 2% du corps électoral, c'est dans les un peu moins d'un million de personnes, dans un cas, et 4% dans l'autre. Et le seuil pour que la proposition soit entérinée, on a proposé des seuils élevés, et notamment dans le cas du grand RIC, le RIC qu'on appelle abrogatoire, puisqu'il vient supprimer quelque chose qui a déjà été décidé. C'est 50% dans la proposition qu'on a faite, c'est 50% des inscrits, ce qui est énorme en fait, et ce qui, étant donné les taux de participation qu'on connaît actuellement, est en pratique impossible à atteindre, sauf grand mouvement populaire qui serait effectivement très largement soutenu par largement plus de la moitié de la population. Ceci dit, ces seuils peuvent être discutés. Quand on écrit un rapport comme ça, c'est juste une proposition qu'on met au milieu du terrain, et puis les gens, une balle qu'on pose au centre, et puis voilà. Et au centre, puisque, sans jeu de mots. Et notamment, juste une petite chose, c'est que, en fait, moi-même et la plupart des co-auteurs de ce rapport, on est favorable au vote obligatoire, au principe du vote obligatoire. Donc, si on pense à un vote obligatoire, le seuil de 50% des inscrits, hein, ça devient pas 50% de la participation, parce qu'il n'y a jamais 100% de participation, mais ça devient quelque chose d'assez différent.
Alors, si on prend un peu le processus dans l'ordre où il se passerait, donc d'abord on a une personne qui va proposer un projet, une réforme, donc soit une proposition de loi, soit une abrogation de ce qui existe déjà, potentiellement sur Internet, ça je ne sais pas, il faudra peut-être le préciser. Et donc, comme on peut le voir actuellement avec les pétitions, on pense notamment à la pétition pour assigner l'État en justice sur la question climatique. Alors, on a un certain nombre de personnes qui vont aller voter cette pétition, donc ce projet, cette proposition. Et vous nous dites, donc si on a au-dessus de 900 000 personnes pour un RIC de proposition, ou au-dessus de 1,8 million, donc 2% des inscrits ou 4% des inscrits, alors cette proposition va effectivement être considérée finalement. Donc on va vérifier sa constitutionnalité dans un premier temps, et là, il se passera d'autres choses. Donc, sur cette première question des seuils, moi, je voulais comparer ça un peu avec ce qui existe déjà, parce qu'on a une sorte de référendum d'initiative, donc on appelle populaire, partagé, pardon, depuis 2008, pour lequel il nous faut donc 185 parlementaires et 10% des inscrits sur la liste électorale, donc 4,6 millions d'électeurs, pour que la proposition soit considérée. Donc peut-être un mot là-dessus, sur ce qui existe déjà, ce RIP, jusqu'à maintenant, il n'a pas été utilisé.
Alors ce RIP, moi je ne suis pas constitutionnaliste, et toutes les personnes interrogées, de n'importe quel bord politique, de n'importe quel horizon, s'entendent à dire que c'était une sorte de farce, pour prendre un mot, hein, parce que c'est impossible à réaliser. D'accord ? Donc, ce qui serait intéressant, c'est de refaire un peu l'autopsie de comment on est arrivé à voter un texte qui ne s'applique pas. Ça, ça serait intéressant, mais c'est pas tellement intéressant à prendre comme point de comparaison. Une petite précision. Donc, qui est à l'origine de ce genre de choses ? En principe, comme tu as dit, une personne. En réalité, c'est pas une personne. En réalité, et c'est un point extrêmement important, il faut voir comment ces initiatives prennent naissance. C'est généralement accompagné d'organisations relativement puissantes, d'organisations qui ont de l'argent. Alors, il y a les partis politiques, quand il s'agit d'options véritablement politiques, ont leur mot à dire. Dans la démocratie suisse, les partis politiques sont associés à ce genre de choses. Soit qu'ils reprennent au bon des choses qui viennent effectivement d'ailleurs, soit qu'ils en sont à l'origine, etc. Deuxième chose, c'est le milieu associatif. Et des associations qui ont un certain poids. C'est pas moi dans mon coin qui fais ça. Et la troisième chose, c'est les lobbies les associations d'entreprises et choses comme ça. Ce qui a posé de nombreux problèmes. Et si on fait l'histoire de notre proposition, en fait, dans l'origine de cette proposition de jury citoyen, c'est une réaction à la capture du système américain par les puissances de l'argent aussi. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Faut pas voir ça comme une personne. Hein. En principe, oui, mais en pratique, non. Ensuite, le contrôle et la collecte des signatures. Donc là, ce qu'on a proposé, c'est que le contrôle se passe avant la collecte des signatures. Pourquoi ? Parce que collecter ces signatures, c'est compliqué et il faut que ce soit bien encadré. Un des éléments qui faisait que dans certains États américains, le système avait dérapé, c'est que si on paye, on peut avoir toutes les signatures qu'on veut. D'accord ? Donc là, le système qu'on propose, c'est pas que j'arrive avec mon cahier puis je dis « Regardez, les gens ont signé ». Non, c'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où le processus est enclenché, le Conseil constitutionnel a constaté que la proposition, qui doit être une proposition de loi, est une proposition conforme au traité et à la Constitution, à partir de ce moment-là, la collecte des signatures se fait officiellement avec l'aide, y compris financière, de la puissance publique. Hein. Donc c'est dans les mairies que les gens peuvent aller signer, etc.
Alors on va peut-être demander l'avis à André Bellon sur ce système.
Oui, en particulier sur ce collège de personnes. Donc vous nous disiez tiré au sort. Donc on récolte un certain nombre on propose un changement. Le Conseil constitutionnel le valide. On récolte un certain nombre de signatures. Et là on a un tirage au sort d'une centaine de personnes qui est effectué et pour que ces 100 personnes préparent finalement le débat, donc en collectant les arguments pour, les arguments contre, qui vont être envoyés sur une sorte de fiche à l'ensemble du collège électoral.
Bon, moi, je voudrais repartir un peu en amont quand même. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça ? Pourquoi est-ce que, d'une certaine façon, il y a une crise, entre guillemets, de la démocratie ? Ça a été frappant lorsqu'on a commencé à parler du RIC, hein. Les réactions ont été « Oh là là, on va remettre en cause la peine de mort, on va remettre en cause tout ce qui fait notre vie tranquille, enfin bref. » Et je dirais, ça s'inscrit dans une ambiance, et je crois que c'est là qu'il faut repartir, dans une ambiance où il y a, depuis des années, une critique du suffrage universel. Le suffrage universel, c'est vilain pas beau, ça amène qu'à des horreurs, hein, et il faut trouver une manière de le remettre en cause. J'ignore, ce qu'il y a de marrant d'ailleurs, il y a comme qui dirait une contradiction, lorsque on a entendu « est-ce que ça va remettre en cause la peine de mort ?» les gens disant « mais nous sommes majoritairement pour la garder ». S'ils sont majoritairement pour la garder, le vote le gardera. Donc il y a une contradiction entre un discours et une pratique qui veut nier ce discours. Sans vouloir vexer notre invité, Terra Nova, j'avoue qu'il y a eu des déclarations assez surprenantes. J'en ai pris une, là, Thierry Pêche, c'est bien notre directeur général, je crois, qui a dit « Les populismes reposent sur une absolutisation du suffrage ». C'est extraordinaire, cette phrase.
Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, alors ?
Ça veut dire, ni Bolsonaro, ni Orban, ni Poutine ne sont les produits d'autre chose que des élections. En dehors de ça, ils n'ont pas de légitimité, ni à la presse, ni au corps intermédiaire, ni à la justice. Bon, je précise que les présidents cités, ce n'est pas vraiment mes amis, mais ce n'est pas la question. La question, c'est, ça veut dire quoi ? Cette histoire que la légitimité viendrait de la presse, des corps intermédiaires et de la justice. D'abord, j'ignore si dans les pays en question, il y a vraiment un tel fossé. Mais au nom de quoi déclare-t-on que les élections, au mieux, ce n'est qu'un élément, au pire, c'est mauvais. C'est une idée qui s'est répandue. Hein. Le suffrage universel, il faut quand même un peu le contrôler. Bon, eh bien, il faut le contrôler. Moi, je dirais, en l'état actuel des choses, de toute façon, il est contrôlé, puisqu'on n'en tient pas compte. Bon, les dernières élections en France, ça a été des élections par défaut. De toute façon, il n'y avait plus de choix. Donc, la vraie question, c'est de remettre sur le tapis la question du suffrage universel.
Voilà. Alors, il y a un des éléments, enfin, une des raisons pour lesquelles un certain nombre de personnes s'expriment en faveur du RIC, c'est justement ce constat-là.
Absolument.
De considérer que...
Absolument, c'est qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas représentés. Bon.
Donc est-ce que c'est pas une solution pour parer ces problèmes ?
Il est vrai. Bon, je m'étais amusé, mais je crois que j'avais fait ça la dernière fois que je suis venu à ce micro, à vous dire les élections maintenant obéissent au théorème Bellon. Alors, le théorème Bellon, qu'on devrait enseigner dans les facs de sciences politiques, dit ceci. Dans toute élection, il y a un élu. Ça peut paraître bête, dit comme ça. Non, ça veut dire que la question n'est pas d'être élu, c'est que les autres ne le soient pas. Et la dernière élection, c'est exactement ça qui s'est passé. Il a été élu par défaut. Bon. Et tout a été fait pour que ce ne soit pas les autres. Donc, la vraie question, c'est comment retrouver le lien entre le citoyen et la vie politique, donc les représentants. Alors qu'il y a un besoin de les critiquer, qu'il y a peut-être un besoin de les remettre en cause, pourquoi pas, bon, on n'a pas parlé du référendum révocatoire, c'est une idée qui court aussi, enfin, il y a des idées comme ça. Mais il faut retrouver le sens du citoyen. Or, dans la proposition, le RIC, bon, moi je ne suis pas du tout sur l'idée que le RIC remplace tout, hein, pas du tout. Je pense qu'il y a la démocratie représentative à son sens, sous réserve qu'elle soit représentative, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon. Que le RIC soit un élément qui permet de faire émerger un certain nombre d'idées, il y a sans doute, oui, des contraintes, des contrôles, bon. Mais, à partir du moment où on pense que sur certains sujets, et d'une certaine opportunité, il y a besoin d'un référendum d'initiative citoyenne, à ce moment-là, il appartient aux citoyens de s'exprimer. À partir du moment où on crée, si j'ai bien compris la proposition de Terra Nova, à partir du moment où on crée deux légitimités, l'une de gens tirés au sort, je ne vois pas en quoi c'est plus légitime d'ailleurs que le suffrage universel, et l'autre, le suffrage universel, quelque part, ces deux légitimités vont s'affronter. Il n'y a pas laquelle est la plus légitime. Bon. Or, qu'il y ait un besoin d'experts, entre guillemets, moi je ne suis pas tellement pour la démocratie d'expertise, d'autant que souvent on choisit les experts par rapport à d'autres. On a déjà vu ça dans pas mal de gouvernements. Qu'il y ait besoin d'experts, très bien, ben, ils peuvent participer au débat du suffrage universel. Pourquoi aller chercher 500 personnes tirées au sort ? Ça importe quoi.
Bon. Jean-François Lallier là-dessus peut-être sur le rôle de la démocratie directe potentiellement en contradiction en termes de légitimité avec la démocratie représentative. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette démocratie directe à côté finalement de la démocratie représentative? Et pourquoi est-ce que vous choisissez ou une autre question, pourquoi est-ce que vous choisissez de tirer au sort ces 100 personnes ou ce collège finalement, de ce jury finalement de personnes qui va aller collecter les informations pour la proposition qui va être faite dans le RIC, contre la proposition qui va être faite dans le RIC, et finalement pour les distribuer à la population qui pourra s'en, les utiliser, s'en imprégner au moment de voter.
D'accord.
À quoi ça sert ?
Ok. Donc, il y a plein d'éléments dans tout ça. Peut-être pour reprendre les choses les plus positives et sur lesquelles on va, je pense, être d'accord. À l'origine de cette proposition et de cette recherche, il y a d'abord la constatation que la démocratie directe et donc le principe de référendum d'initiative citoyenne, ainsi que le principe des assemblées populaires tirées au sort, ça marche, pas parfaitement, mais ça marche étonnamment bien. C'est-à-dire que si la question c'est de critiquer le suffrage universel, je veux dire là on n'est pas là-dedans, au contraire.
Hein. C'est en complément en fait, c'est pas en remplacement évidemment.
Voilà, c'est ça. Et la crainte qu'on entend effectivement quelquefois, soit explicite, soit implicite, que mais on peut pas prendre n'importe qui, demander au peuple son avis parce qu'il n'est pas capable. En fait, le constat empirique, c'est que ces assemblées tirées au sort, elles fournissent à la fin, suivant les cas, des propositions, des recommandations, des rédactions, des différentes choses, qui sont d'une qualité étonnante et souvent de bien meilleure qualité que ce que produit la concurrence entre les partis politiques.
Et ça, ça a été expérimenté dans quel cadre ?
Alors, comme je disais un peu au début, ça a été expérimenté dans des cadres assez, assez variés. Donc, dans le cadre qui ressemble à ce qu'on propose, donc la proposition, elle est assez directement inspirée de ce qui se passe dans certains États américains. Alors, dans certains États américains, donc, il y a ces initiatives citoyennes qui viennent d'un peu n'importe où, en pratique beaucoup d'associations et de lobbies industriels, hein, disons-le. Ça fait vraiment partie de la démocratie américaine et les gens sont très contents. Hein, il n'est pas question de revenir là-dessus aux États-Unis. Par contre, c'est vrai qu'il y a des dérives, hein, qu'il y a eu des dérives et que ces dérives sont souvent le cas non pas d'un excès de suffrage universel, mais plutôt d'un excès d'argent, hein, disons-le simplement. Donc, c'est à ce moment-là, à partir de cette constatation, que c'est assez clair, hein, c'est pas la peine peut-être de développer, c'est à partir de cette constatation qu'il y a un certain nombre d'associations, de militants, qui ont instauré les systèmes semblables à ce qu'on propose, avec souvent un nombre plus restreint de gens, 25 personnes tirées au sort. Et ça a fonctionné, et ça a fonctionné tellement bien que, au moins dans un État, mais c'est en discussion dans d'autres États, dans l'État de l'Oregon, on a décidé d'officialiser ce truc-là, que ce soit partie intégrante de la loi. Hein, voilà. Et à l'usage, donc il y a quand même un usage, ça marche bien. Donc ça, c'est la première chose. Souvent, ça concerne des choses assez simples et assez locales. D'accord ? À l'autre extrême, il y a ces exemples d'assemblées qui traitent de sujets de société nationaux, de sujets politiques nationaux, comme par exemple le changement du mode de scrutin, ou changement de la Constitution, donc les assemblées constituantes. Donc il y a un exemple, c'est l'Islande. Il y a un exemple fameux, c'est en Irlande, sur des sujets très importants, par exemple l'IVG. Il y a plusieurs exemples de modification du mode de scrutin. La modification du mode de scrutin, c'est un exemple intéressant, parce que ça vient directement clasher avec les intérêts des partis politiques et des politiciens. C'est de ça qu'ils vivent, hein. C'est la manière dont on les élue. Et la leçon générale de ça que j'ai tirée et que d'autres ont tirée, c'est à nouveau que ces assemblées tirées au sort de braves gens qui donnent de leur temps en étant simplement défrayés sans avoir d'intérêt personnel a priori, ça marche étonnamment bien. D'accord.
Et oui, alors André Bellon. Oui,
bon, je crains qu'on n'ait pas le temps en une heure d'épuiser le sujet, mais peut-être qu'on y reviendra un autre jour. Moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, ça marche. Hein. Bon, il y a des expériences. De ce que j'en sais, j'ai lu des bouquins, je ne vais pas citer, il y a deux ou trois personnes qui sont un peu les apôtres des tirages au sort, qu'on entend un peu partout. Il y en a un qui a fait un bouquin où il se félicite que les résultats de ces rencontres donnent les bons résultats. Mais il se trouve que les bons résultats, c'était ceux que proposaient les experts. Alors, où est la légitimité de l'expert, les citoyens? Est-ce que les citoyens ont les moyens de s'opposer aux experts, etc., etc. Pour moi, la vraie question... Et si ce type de question existe aujourd'hui, c'est parce que le suffrage universel n'est plus reconnu. C'est parce qu'il est bafoué, perpétuellement. Bon. Et que donc la question est d'y revenir d'une autre manière. Il est évident que les partis tels qu'ils sont aujourd'hui ne sont plus l'expression du suffrage populaire. Les partis tels qu'ils sont aujourd'hui sont des... coalition d'intérêts un peu particulière, avec des représentants qui, de façon générale, d'ailleurs, sont plus des professionnels de la politique que réellement des citoyens, comme ça devait l'être dans les principes républicains d'origine. Alors, il y a eu des expériences, certes, je précise au passage, l'Islande, contrairement à ce qu'on raconte partout, la constituante n'a pas été tirée au sort du tout. Ce qui a été tiré au sort, c'est des citoyens qui ont mis en lumière des sujets qui leur paraissaient importants, la constituante a été élue. Donc elle est bien au suffrage universel. Étant sur un pays de 300 000 habitants, la question est un peu différente d'un pays de 65 millions. Bon. Dernière remarque, la solution pour nous est effectivement l'élection au suffrage universel d'une assemblée constituante qui remet en cause un fonctionnement qui est devenu antidémocratique, sans lien avec les citoyens. Ce qui veut dire que cette constituante doit être élue effectivement en dehors des partis tels qu'ils sont, et nous pensons qu'elle doit émaner d'un débat dans les communes, et pas un débat de citoyens tirés au sort, un débat de tous les citoyens de la commune ou du quartier. Voilà. Bon, parce qu'ils sont tous concernés, et donc tous doivent y participer.
Donc ce que vous dites, c'est que vous considérez le RIC comme un espèce de palliatif au déficit de démocratie. Et donc,
j'aime pas le mot déficit, encore une fois, mais de toute façon...
aux déficiences de notre démocratie, et donc autant la soigner plutôt.
La disparition programmée, disons.
Petite pause, et puis on poursuit le débat sur le RIC, la constituante, la refondation du système politique.
On va se faire un petit référendum. On va se faire un petit référendum. C'est ce que ma femme me dit tout le temps. Chaque fois qu'on pogne un argument, respectons la démocratie, même si est question de se mettre au lit. Quand moi j'entends, quand moi je vote oui, à chaque fois elle c'est non merci. Puis des rares fois que moi je dis non, elle me dit pour trancher la question. On va se faire un petit référendum. On va se faire un petit référendum. Dum, di, 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 dum. Comme on n'est rien que deux à voter à la maison Mary pis moi, à chaque fois qu'il y a une discussion, nos votes s'annulent comme de raison. Moi je me dis que dans ces conditions, il reste rien que la séparation. Mais Mary, ma femme, me répond, prends pas tout seul la décision. On va se faire un petit référendum. Dum, di, 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 dum, dum, dum. On va se faire un petit référendum. Dum, di, 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 dum. Dum, di, 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 dum. Dum, di, 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 dum.
on se retrouve dans Voix contre oreille. On parle ce matin de démocratie, du référendum d'initiative citoyenne, de la refondation du système politique, de la constituante, avec André Bellon, président de l'association pour une constituante, et Jean-François Lallier, chercheur au CNRS et enseignant à l'école d'économie de Paris, donc qui a signé, donc vous avez signé ce rapport sur de proposition sur le RIC délibératif, qui est une variante du RIC, une proposition concrète pour le mettre en place. On en parlait avant la pause. Et donc, on poursuit le débat sur cette question de est-ce que ça va pas mettre en une sorte de compétition entre le système représentatif qui continue d'exister et le système direct via le RIC.
D'accord, donc sur cette question de la compétition, c'est effectivement une des craintes qui est quelquefois exprimée. On pense qu'elle est tout à fait infondée. On pense ça sur la base, à nouveau, de ce qui se passe dans les pays qui pratiquent ces formes d'initiatives citoyennes, en constatant que les partis reprennent les initiatives et sont obligés de se positionner par rapport à ça. Et nous, on pense que, bien au contraire, plus de démocratie directe sera très bon pour l'hygiène comportementale de ces associations qu'on appelle les partis politiques. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine, dans un sens, compétition, mais ça va être très bénéfique.
Sorte d'émulation où finalement les partis
absolument,
sont obligés de débattre des sujets qui préoccupent les citoyens.
Quoi. Et je pense que le comportement des partis, c'est une variable clé. Hein, c'est quelque chose.
André Bellon.
Oui. D'abord, juste un point de vocabulaire. On entend partout démocratie représentative et démocratie participative. Pour moi, une démocratie qui n'est pas participative n'est pas une démocratie. Je ne comprends absolument pas cette obsession de mettre des qualificatifs qui me paraissent toujours signifier autre chose quand on le fait. Hein. Bon. Deuxièmement, la contradiction que moi j'ai évoquée, le risque de conflit de légitimité, il n'est pas du tout entre les représentants élus et le RIC. Il est entre le RIC en tant qu'expression du suffrage universel, une assemblée tirée au sort qui va parler de la même chose et qui va essayer d'orienter le suffrage universel. Il est là, la contradiction.
Ce que vous craignez, c'est que cette assemblée, ce jury de personnes tirées au sort soit influencé par des experts qui l'amènent dans le sens souhaité.
Pour moi, tel que j'ai lu les choses, et j'en ai lu pas mal, il est fait pour ça. Bon, on va prendre 500 personnes tirées au sort qui vont régler tous les problèmes de la planète. Enfin, ça n'a pas de sens.
Non, sur une question précise, ces 500 personnes cherchent
les arguments pro et contre. Si c'est des questions compliquées, je pense que le débat doit être un débat de l'ensemble des citoyens qui soit s'expriment pour parler aux représentants, soit s'expriment par le RIC. Je pense que le RIC est un élément important dans l'architecture de futures institutions. Il n'est pas l'alpha et l'oméga, cela étant. Hein, il y a un certain nombre d'autres choses. Mm-hmm. Mais vous parliez du référendum d'initiative révocatoire. Bon, c'est un sujet pas simple, dans la mesure où il y a des textes. En plus, on peut parfaitement juger que certains sujets ne doivent pas être soumis à débat et qui font partie des règles générales. Bon. Par exemple, le système doit rester républicain. Je vous rappelle que Pétain a été élu parce qu'il n'y avait pas ça dans la Constitution. Hein. Ça y est depuis 1945. Donc il y a des règles, on n'a pas le droit d'y toucher. Bon, comme ça. Bon, donc qu'il y ait des éléments de ce genre, ça me paraît de mesure de célébrité publique, je dirais. Voilà. En revanche, que le RIC soit un élément qui permet aux citoyens sur des sujets fondamentaux, d'exprimer leur opinion, éventuellement de parler d'une loi déjà existante. Je vous signale au passage qu'une loi déjà existante peut être contestée par le Conseil constitutionnel, par Bruxelles, éventuellement par des comités de l'ONU, éventuellement même par un citoyen tout seul par les questions prioritaires de constitutionnalité, les seuls qui n'ont pas le droit de contester une loi, c'est les citoyens, dans l'ensemble. Ben, ça devient absurde comme système. Bon. Donc il est vrai qu'on a tout à remettre à plat, mais ce qu'il y a à remettre à plat avant tout, c'est la place, le rôle du citoyen et du suffrage universel. C'est-à-dire cette espèce de confiance humaniste qui a rythmé le 19e siècle et une partie du 20e. Aujourd'hui, la vraie question qui existe au travers de tout ça, c'est qu'il y a la peur du citoyen. Et qu'il faut revenir à la confiance dans le citoyen et trouver les moyens d'exprimer cette confiance. Il n'y a pas besoin d'experts, de machins et de trucs pour ça. Il suffit qu'on crée les éléments pour que cette confiance existe. Or, l'idéologie qui s'est développée depuis un certain nombre d'années est on a peur du citoyen, on a peur du suffrage universel, et comme on a peur, on cherche à le ligoter. Et puis un beau jour, les liens se brisent et il se passe ce qui se passe en ce moment.
Alors Jean-François Lallier, est-ce que ce choix de désigner ce jury qui sera en charge donc d'animer un peu le débat, si on veut, via un tirage au sort, est-ce qu'effectivement c'est un contournement du suffrage universel qui le craint, comme vous le suggérez, André Bellon, ou quel est... Oui. Est-ce qu'il va être influencé, effectivement? Est-ce que le risque, c'est pas une influence d'un certain nombre d'experts qui vont pouvoir se rapprocher de ces 100 personnes et les influencer, finalement, dans le sens souhaité? C'est un peu ce qui ressort de ce que vous dites.
Donc, le point de départ, c'est pas du tout la méfiance par rapport aux citoyens, au contraire. Hein. Ces assemblées sont sous l'influence des experts, juste comme ça. Je le pense pas, et je pense que l'expérience montre que leur débat est plus serein que les autres formes de débat qui sont en fait capturées par les médias. Parce qu'en réalité, c'est ça. Donc il y a effectivement un problème assez concret et pratique de comment ça se passe exactement. Par exemple, quel est le moment de ces débats à l'intérieur de la campagne? Est-ce que ça se passe pendant, après? Donc l'idée, c'est que ça se passe pendant et plutôt vers la fin. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc qui va se rajouter parmi des milliers de contributions, ça a un statut assez particulier. D'accord ? Est-ce que les gens en question est-ce que les débats sont publics ou pas, etc. Il y a les deux. Il faut que les débats de cette assemblée soient publics, mais il est aussi important qu'ils puissent discuter en dehors, plus au calme. D'accord. Combien de temps ça dure? Est-ce que il faut faire ça d'un seul coup ou soit séparé de quelques semaines? Est-ce que ces gens sont chargés de faire la publicité de ce qu'ils ont produit ou pas? À mon avis, c'est plutôt non, parce que concrètement, c'est quelque chose qui est du coup difficile à demander à quelqu'un qui a été tiré au sort d'aller défendre sur les plateaux de télé ou de radio. C'est un travail très différent. Le bon sens des gens est là. Par contre, leur capacité à se défendre vis-à-vis d'intervieweurs, par exemple, ça, c'est autre chose. D'accord.
Ok. Alors, est-ce que vous croyez pas que on a bien compris cette proposition du RIC qui peut sembler intéressante ou pas, mais pour reprendre les arguments d'André Bellon et les prolonger, est-ce que vous pensez pas finalement que ce RIC, tout bénéfique soit-il, ne va pas régler tout un tas de problèmes, notamment l'hyper-présidentialisation de la Ve République, les représentants qui sont pas très représentatifs, notamment les députés, enfin tous ces problèmes de la Ve République.
Oui, absolument. Donc ça c'est clair et net. La proposition une réponse à quelque chose qui était sur la table, la question du RIC. Jamais on a pensé que c'était une solution générale à tout, ou des choses comme ça. Mmh. En fait, moi, j'ai travaillé sur des sujets différents qui touchent effectivement à l'amélioration du fonctionnement de la démocratie. Et le RIC, c'est un élément. Les autres éléments clés sont le partage de pouvoir, le rôle des partis, la manière dont les partis se sont transformés. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. La question de la régulation des partis, leur financement, c'est extrêmement important. La présidentialisation, le mode de scrutin, etc. Hein. Je pense que le mode de scrutin, c'est très important et ça pervertit pas mal de choses. Par exemple, je rebondis sur un point dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as dit, dans une élection, il y a un élu et pas les autres. Et ça, c'est typique de la manière dont les Français voient les choses. Et c'est typique de winner take all, on dit en anglais, mode de scrutin et de scrutin majoritaire et qui inclut la présidentialisation. Non, on est élire l'élection, c'est pas forcément choisir un chef.
Il n'y a pas de proportionnel.
Par exemple, la proportionnelle, c'est autre chose.
Alors, André Bellon, par rapport à ça.
En passage, pour une boutade, il est effectivement difficile d'élire le président de la République à la proportionnelle. Ça c'est sûr. Autant je pense qu'effectivement, le référendum d'initiative citoyenne correspond à une attente, à une demande, et qui doit trouver sa place. Après, bon, il faut parler de modalités. Autant, je pense qu'on est bien d'accord pour dire qu'il ne résout pas tous les problèmes institutionnels, cela va de soi. Par contre, là où j'ai un problème, mais je finis par rabâcher, bon, d'abord les experts, ils ne sont pas neutres, ils sont toujours attachés à une idée, à une pensée, voire à des intérêts, j'en connais. Donc l'idée que soudain ils deviendraient des espèces de prêtres de la bonne pensée.
Mais là, il n'y a pas d'experts, c'est des personnes tirées au sort, ce ne sont pas des experts.
Non, les experts, ils ne sont pas tirés au sort. Hein. C'est les gens qui sont tirés au sort, pas les experts.
Mais dans la proposition...
Les experts, ils ne sont pas tirés au sort. Ils seraient tirés au sort parmi quoi, d'ailleurs? Bon, donc, non, la vraie question, c'est... Oui, nous constatons qu'il y a un dysfonctionnement de la vie publique, en particulier des médias et des institutions, cela va de soi. Il ne s'agit pas, enfin pour moi en tout cas, de dire on va mettre à côté de ces institutions éventuellement rénovées, en particulier la remise en cause de la place et du rôle du président de la République, qui est absurde, complètement absurde dans l'état actuel des choses. Bon. Surtout vu la légitimité qu'il a. Il ne s'agit pas de mettre à côté encore autre chose pour servir d'exutoire. Il s'agit de dire, s'il y a un problème de médias, comme aux États-Unis, ou d'argent, comment peut-on faire en sorte que les médias fonctionnent autrement? Il faut que cette question existe. Que le problème du financement de la presse existe. Que le problème du rôle... de certains lobbies qui tiennent les organes de presse, c'est un problème politique et qu'on a à le traiter. Tous ces problèmes, on doit en parler. Et ce n'est pas en disant c'est comme ça et on met un truc à côté pour compenser qu'on résoudra la question. La question, elle va perdurer. Parce que les États-Unis, oui, d'accord, il y a ces exutoires. Enfin, la réalité, c'est quand même bien un président de la République qui a tout pouvoir, moins que chez nous, parce qu'il y a réellement un congrès qui n'est pas à la botte. Ce qui est quand même le cas en France de l'Assemblée nationale.
Alors le risque, c'est qu'effectivement, cette concentration du débat politique aujourd'hui, et populaire et médiatique sur le RIC, c'est qu'il fasse passer au second ordre les questions finalement de... André Bellon, vous considérez comme plus importante de fond finalement sur le principe des institutions françaises telles qu'elles existent aujourd'hui, donc hyper-présidentialisation, rôle du Parlement dévoyé, des choses comme ça. Et effectivement, un point là-dessus qui semble aller dans ce sens-là, c'est que le RIC a émergé à partir de ce mouvement des Gilets jaunes, et le politique, en particulier La République En Marche, s'en est très bien saisi, et il semble faire son chemin petit à petit, et on le voit bien arriver à la fin du grand débat. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que le risque, ce n'est pas de mettre en place un nouvel élément démocratique potentiellement positif, mais qui aura la conséquence de laisser sous le tapis tous les problèmes de fond qui sont là et qui ne vont pas être questionnés?
Si ça aboutit à la création d'un nouvel outil utile et pertinent, tant mieux, prenons ça. Après, mon avis, c'est que c'est pas la création de cet instrument qui va calmer la colère des gens, hein. Et donc c'est pas du tout la fin de l'histoire, et je pense que personne ne s'imagine que ça va être la fin de l'histoire, hein. Donc il y aura besoin de réformes sur différents autres points. Il y a quand même eu une occasion manquée, c'est l'affaire de la dose de proportionnelle. L'affaire de la dose de proportionnelle qui était relativement bien engagée. Je pense que c'est une demande qui vient aussi, qui est assez profonde dans le pays. Donc il y avait un soutien populaire. Le travail avait été suffisamment bien fait pour que les propositions soient là, qu'on puisse en discuter. Il y avait certes l'opposition de certains partis ou politiciens qui, évidemment, n'aiment pas changer ce genre de choses. Et puis il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu l'affaire Benalla, et donc du jour au lendemain, c'est passé à la trappe et c'est sorti de l'agenda. Peut-être que ça va revenir, hein, peut-être que ça va revenir sur le...
Alors la proportionnelle, donc pour élire l'Assemblée nationale, elle permettrait de limiter cet effet d'un Parlement qui ne fait que être à la botte du président. André Bellon, vous êtes d'accord avec ça
ou... Oui, alors d'abord, il est évident que dans les institutions aujourd'hui, le Parlement a plutôt la portion congrue. Bon, et alors en plus, depuis les réformes Jospin, c'est-à-dire le quinquennat et l'inversion des calendriers, bon, c'est devenu quasiment une chambre d'enregistrement, et puis c'est tout. Bon. Alors que la proportionnelle donne de l'air, incontestablement, par rapport à un système où il y a une majorité qui, de toute façon, ne sert à rien, sauf à dire oui, oui, sans doute. C'est ce qu'on appelle donner de l'air. Bon. Cela étant, je ne suis pas sûr que ça fasse autre chose que donner de l'air et que ça réponde réellement à la crise qui... Je vous rappelle quand même que quand on a fondé l'association pour la Constituante, donc il y a maintenant 11 ans, on disait déjà ce que nous sommes en train de dire. Et que ça ne s'est pas arrangé depuis. Ni sur le plan national, ni sur le plan européen, qui est devenu, alors là, une espèce d'usine à gaz pas possible. Cela étant, la proportionnelle, en elle-même, est un système plus juste, ça, oui, bien sûr. Mais elle ne répond pas au problème de fond que je vais rappeler en deux mots, et deux, elle repart des partis tels qu'ils existent, donc elle fossilise un peu le système représentatif. Or, je crois qu'il y a un besoin de remise à plat plus vaste, et quand nous parlons de constituante, il ne s'agit pas seulement... C'est pas, comme certains disent, 6e République. Oui, après la 5e, il y a des chances que ce soit la 6e. Mais c'est pas un truc clé en main, comme le font certains groupes. Non. L'idée constituante est un symbole pour dire aux citoyens « Reconstituez-vous en peuple souverain », ce qui est théoriquement dans nos institutions, article 3 de la Constitution. « Reconstituez-vous et soyez donc les responsables de la vie public. Donc la reconstitution du peuple en tant que corps politique. Or, celui-ci, non seulement, je ne vais pas reprendre la phrase que je citais tout à l'heure, comme l'absolutisme des élections, ce qui est quand même assez étonnant, mais il y a besoin de reconstituer et de sortir de ce discours dès qu'on dit peuple, ah c'est populiste. Enfin, c'est quand même le fondement de la démocratie.
Donc ce que vous proposez, c'est un processus constituant sans...
À partir des communes et des quartiers.
Voilà, et sans savoir a priori où il va nous mener par
Mais
définition.
Il est en route ce processus. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour quand Macron a dit il faut tirer au sort un certain nombre de citoyens, on les a pris dans la lueur téléphonique, hein, et ils vont discuter de toutes les choses qui sont sorties du grand débat. D'ailleurs, les plus intéressantes sont sorties en dehors du grand débat. Hein. Mais bon, les citoyens 9 sur 10 se sont récusés. Alors qu'il y a un vrai débat des citoyens dans les communes, j'en connais.
Alors, Jean-François Lally, peut-être un mot de conclusion par rapport à ça, sur cette idée d'un processus constituant, au-delà de toutes les propositions qu'on a évoquées et qui pourraient apporter des plus, mais l'idée de refonder totalement le jeu par un processus constituant, comme le décrit André Bellon, ça vous semble une bonne idée ?
Moi, j'ai rien contre remettre tout à plat. Simplement, je constate que remettre tout à plat, c'est compliqué. Et déjà, quand il s'agit de discuter les éléments un par un, c'est pas évident. Hein. Donc, moi, je suis plutôt sur la ligne que on peut discuter les éléments un par un. Par exemple, est-ce qu'il faut un président ? Est-ce qu'il faut les lire ? De quelle manière il faut les lire ? Est-ce qu'il faut une assemblée ? De quelle manière ? Voilà. Ça va faire des discussions assez concrètes. Voilà.
On en reste là alors. Ouais. Finalement, les deux points de vue n'étaient pas si éloignés. Après, c'est comment on y va est-ce qu'on discute les éléments un par un, comme vous le dites, Jean-François Lallier, ou est-ce qu'on refonde tout avec un processus comme le défend André Bellon ? Le débat doit se poursuivre. Il y a l'association pour une constituante qui défend ce processus. Et sinon, on peut lire le rapport de Terra Nova, donc le référendum d'initiative citoyenne délibératif, dont Jean-François Lallier est co-auteur avec beaucoup d'autres personnes qu'on n'a pas le temps de citer. Merci Clément pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle d'un tout autre sujet, la liberté sur Internet et la question des données personnelles. Un autre sujet de démocratie d'ailleurs. Hein. Merci à tous les deux et puis merci à Gilles qui a réalisé l'émission. À très bientôt, à la semaine prochaine.
Un grand merci à vous.